L'atelier politique, Frédéric Rivière.
Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et pourrait nous arriver. Ce soir, nous sommes avec Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. Bonsoir.
Bonsoir.
Lyotte, c'est, je le rappelle, l'acronyme de Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vos propos ne feront donc l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour à peu près trois quarts d'heure. Vous aurez donc du temps pour développer vos idées. Cette émission s'appelle l'atelier politique et j'aimerais donc, Estelle Youssoufa, comme je le fais à chacun de mes invités, vous demander quel est votre outil préféré.
Alors en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit ma voix, et puis après je me suis dit mon téléphone, parce qu'en fait c'est ce qui me sert à rester en lien avec, avec Mayotte quand je suis loin, que maintenant on arrive à faire des vidéos, et voilà, donc ça me permet de faire des directs avec mes administrés, la population à Mayotte, et de revoir le visage de mes proches, quand je suis longtemps dans l'Hexagone. Donc voilà, le téléphone pour travailler, mais...
Oui, c'est un outil de travail, indiscutablement.
Voilà. Et avec une relation un peu amour-haine, parce que chaque fois qu'il sonne,
ouais.
C'est un peu...
Vous êtes née à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, d'un père militaire mahorais et d'une mère infirmière métropolitaine. Vous avez suivi l'essentiel de votre scolarité à Mayotte, à Mamoudzou. Est-ce que Mayotte était différente dans votre enfance, votre adolescence, de ce qu'elle est aujourd'hui ?
Rien à voir. Mayotte que j'ai connue enfant, que l'on a tous connue enfant, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, était une île paradisiaque. Et c'est pas l'idéalisation des enfants. C'est tous les adultes même qui ont connu cette période. Mayotte, on ne savait pas ce qu'était une serrure. On n'avait pas de porte. Tout était grand ouvert. Une nature luxuriante, extrêmement généreuse. Mon père partait, était militaire de carrière, mais il est rentré à Mayotte, était électricien. Il a participé à l'électrification de Mayotte. Et il revenait de brousse avec 25 kilos de litchi ou d'ananas qu'on achetait pour 3 ou 4 francs sur le bord de la route. C'était un pays de cocagne parce que c'est une île volcanique, donc la terre est extrêmement fertile, où il pleuvait beaucoup, donc tout pousse très très vite. Il ne faut pas jeter de noyaux à Mayotte parce que ça pousse. Que c'est souvent quelque chose qu'on apprend quand on est enfant. C'est c'est une île qui est d'une très 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 grande beauté. On parle souvent du lagon de Mayotte, mais il y a aussi la terre ferme qui est très très belle.
Alors,
qui l'était.
Vous l'avez dit vous-même, donc je ne vais pas être discourtois en donnant votre âge. Vous avez 46 ans. La Mayotte dont vous parlez, c'est Mayotte d'il y a quoi, 30, 35 ans, c'est ça à peu près?
Mayotte a commencé à vraiment changer et à être bouleversé il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans, avant la destruction totale par le cyclone. Mais commencer à ne plus reconnaître Mayotte à partir d'une vingtaine d'années, où on a commencé à avoir un afflux migratoire énorme avec une explosion démographique et qui a fait que la population a été multipliée par 10 en 30 ans. Et donc ça a complètement
on va revenir,
changé le visage de l'île.
Bien entendu sur tout ça. La politique n'était pas une vocation pour vous. Vous aviez choisi le journalisme.
Ça ne l'est toujours pas.
Ça ne l'est toujours pas. C'est un mal nécessaire de faire de la politique.
C'est le chemin que la population m'a demandé de prendre. Je le fais parce qu'on est très peu nombreux à Mayotte. Que de ma génération et les précédentes, on est très peu à avoir accédé à des études supérieures. Et que donc, il me semble normal de rendre et de contribuer à hauteur de ce que je peux. Et donc, je fais ma part au mieux de ce que je peux pour l'intérêt général. Mais non, ce n'est pas une vocation. Je suis souvent dans mon activité de députée en train de me demander ce que je fais là.
Ouais. Vous aviez donc choisi la voie du journalisme. Vous avez travaillé sur plusieurs chaînes de télé, notamment LCI. Vous regrettez parfois d'avoir... Vous seriez resté...
Non, j'avais quitté. Non, j'ai fait 20 ans de journalisme, du grand reportage, de la présentation, de l'investigation. Non, je suis partie parce que le métier avait beaucoup changé, que je ne me reconnaissais plus. Donc, j'ai pas de regret d'avoir quitté la presse, parce que celle dans laquelle j'ai commencé n'existe plus.
On dit parfois que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. C'est une formule que vous pourriez faire vôtre ?
Non. Comment dire, il y a trois métiers les plus détestés en France, c'est journaliste, politique et policier. Je suis dans le toboggan.
Il doit y avoir huissier de justice aussi.
Dans le top 3, c'est les trois.
Est-ce que vous vous sentez plus utile comme responsable politique que comme journaliste ?
Non. Dans tout, je... Mais enfin, si vous posez la question, mais sur des choses où moi, je suis perpétuellement insatisfaite, donc non, pas le sentiment. Je pense qu'on tend, on essaye d'être utile. Et quand on faisait des enquêtes, quand j'étais journaliste, évidemment, le sujet, c'est de contribuer au débat public. Et quelque part, ça rejoint aussi l'activité d'élu, c'est-à-dire de participer à l'intérêt général de manière très, très différente. Est-ce que je me sens... utile, c'est la quête quotidienne. J'ai pas l'impression d'arriver à faire assez. C'est une énorme frustration. Mais quand j'étais journaliste, je pense qu'on n'a pas cette ambition. En tout cas, pour moi, c'était pas la motivation lorsque j'étais journaliste. Donc, j'avais pas cette prétention. Alors que là, quand on est élu, c'est quand même le mandat. Donc, c'est beaucoup plus dur à assumer d'être inefficace.
Est-ce qu'il est vrai que les Mahorais vous surnomment Estelle Poutoum Gowa ?
Oui.
Vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Poutungoa, c'est un piment extrêmement fort. Et en fait, c'est un surnom qui m'a été donné par l'équivalent des guignols à Mayotte.
Guignols
de l'info, c'est un groupe de jeunes humoristes qui fait des analyses politiques sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement populaires et qui avait, lors de la campagne de 2022, donné un surnom à chacun des candidats. Et donc, moi, ils m'avaient surnommé Poutungoa. Ce qui est donc le piment, ce qui en fait est un... Bon, d'abord c'est drôle, mais c'est surtout un énorme compliment, puisqu'à Mayotte, on mange pimenté à part, on ne cuisine pas pimenté, on met le piment à part dans la sauce, et on estime qu'un plat n'est complet que s'il y a du piment. Donc c'est pas... Ici, le piment est indigeste, mais à Mayotte, c'est au contraire de dire qu'il est indispensable. C'est très gentil comme surnom.
Dans un portrait que le Nouvel Obs vous a consacré il y a quelque temps, vous admettiez, vous reconnaissiez n'être ni patiente ni diplomate. Est-ce que c'est une qualité ou un défaut dans votre activité ?
Ah non, c'est un énorme handicap. Mais enfin, ça n'allait pas que dans mon activité au quotidien. C'est très dur à vivre. Pour moi-même, mais surtout pour mes proches, les gens qui m'entourent. Non, j'ai aucune patience, j'ai pas de diplomatie. C'est compliqué ce que je fais. Complètement, c'est difficile parce que je me combats, mais je progresse, mais certainement pas assez. Mais je pense que pour mes interlocuteurs, c'est dur parce que je suis très brutale verbalement.
Vous êtes cassante ?
Non, je peux être très brutale verbalement parce que souvent, on n'écoute pas. En fait, moi, quand je suis cassante, c'est que j'ai dit trois fois la même chose et qu'on n'a pas écouté.
Bon, je dis pas gratuitement. Attention à bien vous écouter alors pendant cette émission.
Non, mais je dis pas les choses gratuitement. Et donc, je pense qu'il y a parfois une part de sexisme, sinon dans la manière de fonctionner, mais qui est vraiment très prégnante en politique. En politique, où il faut hausser le ton pour être entendu.
Ouais.
Alors, dans la prise de parole publique. Personne ne peut me trouver brutale. Je ne dis jamais publiquement ce que je n'ai pas dit en privé. Jamais. À aucun de mes interlocuteurs. Donc j'ai préparé des réunions, j'ai expliqué, j'ai monté les dossiers. On ne m'entend pas. Et donc après, quand on s'aventure dans la sphère publique à répéter les mêmes âneries, là je tacle et puis je ne prends pas de gants parce qu'en fait, ça suit une discussion où j'ai expliqué, argumenté, de manière tout à fait polie, courtoise, méthodique, et on a balayé avec une fin de non-recevoir. Donc quand on s'aventure sur ce terrain publiquement, là je réponds publiquement,
je le fais carrément. On en parlera un peu plus loin, mais moi j'ai vu des extraits de commissions de séances en commission à l'Assemblée nationale, oui, où vous êtes d'une très grande fermeté, mais sur une voie parfaitement posée. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on fasse, si vous le voulez bien, un petit rappel historique de Mayotte. Donc Mayotte est devenue française en 1841, c'est bien ça? Mm-hmm. Alors l'île a été vendue, c'est une réalité historique ça, vendue à un marin français?
Oui, donc Mayotte... Avant de devenir française, c'est la période des sultans batailleurs dans la région. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un sultan par île entre Madagascar, les Comores, la Tanzanie voisine avec Zanzibar, etc. Et donc, les sultans batailleurs, comme l'indique bien ce surnom, en fait, c'est une période où les sultans entre eux se pillent, font du commerce d'esclaves et d'épices, et se conquièrent les uns les autres. Et donc Mayotte est sous la chefferie d'un sultan, Andrian Soulier, qui est malgache et qui n'arrive pas à garder le contrôle de l'île, qui est régulièrement attaquée par les sultans de la Grande Comore et d'Anjouan, qui viennent faire des raids de pillage et de prédation des terres. Et donc quand le commandant Passeau, qui est le représentant de la France dans l'océan Indien, se fait virer de ce qui est devenu l'île Maurice, le commandant Passeau cherche une nouvelle terre pour déposer l'ancre. Et en fait, le sultan Andrian Souli demande la protection de la France pour Mayotte en 1841 et vend Mayotte pour 100 piastres. Ce qui se fait avec l'accord et la bénédiction des autorités religieuses et des notables de l'île. Donc ce n'est pas du tout un trajet colonial classique, dans le sens où ça n'a pas été une conquête militaire, ça n'a pas non plus été une conquête qui a été l'objet de tractations par la demande de la France. Ça a été l'inverse. Et ça s'inscrit dans le cadre de relations déjà difficiles avec le voisinage.
Alors, un peu plus d'un siècle plus tard, en 1974, une consultation sur l'indépendance ou le maintien dans la République française est organisée dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Le vote en faveur de l'indépendance est de 99% à Moéli, Anjouan et en Grande Comore. En revanche, Mayotte vote à plus de 63% pour le maintien dans la République. Pourquoi, selon vous, en 1974, il y a une cinquantaine d'années, pourquoi les Mahorais ont-ils voulu rester français?
Donc, Mayotte est française depuis 1841, les autres îles des Comores deviennent françaises plusieurs décennies plus tard.
Oui, sous protectorat français.
Et sont administrées séparément de Mayotte. Donc le discours des Comores, donc historiquement c'est les sultans batailleurs, avec une logique de rivalité, de difficulté entre les îles, puisque les Comores sont une création purement coloniale. L'archipel des Comores en tant qu'ensemble politique n'a jamais existé avant la période coloniale. Et ça ne dure que les 30 années qui précèdent le vote de 76 et 74. C'est-à-dire que avant ces trois décennies, l'archipel des Comores n'est pas administré de manière commune. Il n'y a pas de pays des Comores qui existe. Et à la décolonisation, les Comores demandent l'indépendance contre l'avis de Mayotte. Et c'est une période extrêmement violente. Mayotte estime, et estime toujours, que la domination comorienne signifierait des violences, la famine et la prédation des terres, puisque pendant les 30 années où Mayotte a été sous administration comorienne avec la France, ça a été des années extrêmement difficiles pour Mayotte. Donc on a toujours considéré que nous préférions rester français que de devenir comorien, ce que nous n'avons jamais été. Mais qui est contesté sur la scène internationale, oui, puisque les Comores estiment que la décolonisation n'a pas été complète. Elles réclament Mayotte, malgré l'avis des Mahoraises et des Mahorais qui ont dit non. Et ces deux principes de la décolonisation, celui que proclament les Comores, c'est l'intangibilité des frontières du territoire décolonisé. C'est-à-dire que c'était les quatre îles qui étaient un ensemble administratif, donc ça devrait être les quatre îles décolonisées. Et nous qui disons, bah non, le droit des peuples à disposer de nous-mêmes, on nous a posé une question, on a répondu, c'est non. Donc en fait, on respecte le vote. Donc c'est un problème international posé en droit avec deux visions concurrentes de la décolonisation.
Donc une nouvelle consultation sera organisée deux ans plus tard, en 1976, à Mayotte uniquement. Et le résultat en faveur du maintien dans la France est absolument écrasant. 99,4%. Comment vous expliquez qu'en 2 ans, puisque je le disais en 1974, c'est 63% à Mayotte en faveur du maintien dans la France, et 2 ans plus tard en 1976, c'est 99,4%, donc 36% de plus. Comment vous expliquez cette augmentation incroyable ?
Parce que ça a été une période de très très forte tension politique avec des déplacements de population. Il y a une partie de la population qui était originaire des Comores qui est partie aux Comores. Et le vote en fait n'a concerné que les Mahorais qui étaient très 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 largement favorables à rester au sein de la France, a fortiori parce que dès le début, le fonctionnement aux Comores a été bancal. C'est une instabilité politique chronique. Avec un discours qui ne se tient pas en français, quoique, mais des autorités comoriennes qui est très violent envers Mayotte, que les autorités comoriennes ont toujours considéré comme rebelles et à domestiquer, sinon soumettre. Donc ce n'est pas un discours qui résonne beaucoup à Mayotte. Il n'y a pas de velléité d'indépendance à Mayotte, encore moins de rattachement aux Comores.
Alors, il faut, Estelle Youssoufa, que vous nous parliez du mouvement des chatouilleuses. Parce que c'est une histoire assez incroyable et d'une très grande originalité. De quoi s'agit-il ?
Donc en fait, pendant les 30 années qui ont précédé le vote pour l'indépendance qu'ont choisi les Comores, on s'est retrouvé à Mayotte sous administration, en fait, qui était la capitale était à Moroni, c'est-à-dire à la Grande Comore. Et ça a été 3 décennies d'instabilité politique avec une discrimination systémique des Mahoraises et des Mahorais. Les postes de fonctionnaires, les Mahorais en étaient exclus. La distribution, l'approvisionnement en riz s'arrêtait à la Grande Comore et Mayotte avait faim. Et les Mahorais qui étaient à des postes importants ont tous été cantonnés à Moroni, ne pouvaient plus rentrer à Mayotte. Et les administrations qui étaient installées à Mayotte ont été déplacées à Moroni. Donc les hommes Mahorais étaient bloqués à la Grande Comore, ne pouvaient plus rentrer chez eux. Ce sont donc les femmes, puisque Mayotte est une société matriarcale, ce sont les femmes qui ont pris le relais du combat politique. Et les chatouilleuses, donc, qui menaient ce combat politique pour rester au sein de la République, puisqu'il y avait le vent des indépendances qui soufflait, en fait, les chatouilleuses ont créer cette mobilisation politique non violente en manifestant et en séquestrant avec des chatouilles tous les émissaires de Paris ou des Comores qui venaient expliquer à Mayotte que l'indépendance c'était très bien. Donc au lieu de pouvoir circuler normalement, les chatouilleuses attendaient en bande à l'aéroport et chatouillaient jusqu'à déshabiller l'émissaire hexagonal ou comorien qui repartait en slip remballé avec ses inepties pour aller en sens inverse. Donc les chatouilleuses,
c'est quelque chose de très fort dans l'histoire de Mayotte.
Ça renvoie au fait que Mayotte est une société matriarcale, ça renvoie au fait que Mayotte est une société où les femmes sont des maîtresses-femmes, et ça renvoie au fait qu'on est des gens pacifistes, mais qu'il ne faut pas énerver non plus. C'est-à-dire que ça, c'est pas sous des dehors un peu bonhommes et souvent les gens pensent indolents, qu'en fait, quand on dit non, c'est non. Et les femmes, les chatouilleuses, sont des combattantes qui sont aujourd'hui vénérées, qui sont des matriarches, certaines sont encore vivantes, mais qui sont vraiment, qui ont été les gardiennes de la République. Pour nous, ce sont nos Mariannes à nous.
En faisant des recherches pour préparer cette émission, je suis tombé sur plusieurs articles, de nombreux articles d'ailleurs de la presse française, assez critiques sur la manière dont Mayotte est devenue française. Je ne prends qu'un exemple, ce papier sur le site de France Info en 2015, donc il y a 10 ans. J'ouvre les guillemets, « Quand la France arracha Mayotte aux Comores, 1974-1976 ». Qu'est-ce que vous inspire cette lecture des événements ?
En fait, Mayotte souffre d'une lecture qui s'explique. Il y a plein d'éléments. Mais en gros, quand on a parlé des 30 années qui ont précédé les votes des années 70, quand je vous ai dit la discrimination qu'ont subi les Mahoraises et les Mahorais pour accéder aux postes importants ou aux bourses scolaires, ce qui fait que les Comores ont produit une élite intellectuelle et ont produit en fait du contenu universitaire. Les 3/4 de ce que vous lisez sur Mayotte n'est pas écrit par des Mahorais. C'est écrit par des Comoriens qui, par homonymie, ou les patronymes sont souvent voisins. Donc en fait, évidemment qu'un hexagonal ne se dit pas est-ce que c'est un Mahorais ou c'est un Comorien qui écrit. Donc les Comoriens ont construit un discours sur Mayotte qui correspond à leur propre vision. Et les Mahorais, le peu que nous étions concentrés sur rester français. Donc nous, on a complètement abandonné le champ de la construction d'un discours et d'un narratif qui a été laissé aux Comoriens, qui en plus ont été soutenus dans cette démarche par la gauche française qui épouse, j'allais dire, au niveau idéologique, l'idée de la décolonisation, et qui donc est convaincue que Mayotte est une décolonisation mal faite. Pour nous, Mahorais, c'est quand même quelque chose. Bon, d'abord, c'est une contre-vérité historique, mais en fait, moi, je peux tout à fait en discuter avec vous. Si les uns et les autres disent Mayotte n'aurait pas dû rester française parce que le vote n'était pas juste, ben, en fait, le vote de l'indépendance des Comores ne l'est pas non plus. Car on ne peut pas choisir le vote qui nous convient. La partie qui est quand même extraordinaire dans ce discours de Mayotte française est une erreur, parce que c'est ce qui est sous-entendu, hein. C'est historiquement une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, quand les uns et les autres parlent du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est quand la réponse leur convient.
Ouais. C'est-à-dire que vous savez que ce qui est mis en cause régulièrement, c'est le fait d'avoir décompté les voix île par île au lieu de décompter l'ensemble du vote. C'est ça qui est souvent mis en cause. Mais d'ailleurs, il y a un doute là-dessus sur l'intention initiale. Dans le texte qui annonçait la consultation, les choses n'étaient pas parfaitement claires à cet égard, non ?
En fait, c'est une grande violence symbolique. C'est en fait, vous êtes implicitement par votre question en train de me renvoyer au fait que je ne suis pas une Française légitime. Mais si, mais c'est ça ce que produit ce discours.
Je vous parle de ce que
je vous réponds, monsieur.
Entendu, mais ne dites pas que c'est ce que je dis moi.
Vous réponds sur le discours que ça propage.
Oui, voilà.
Je dis que ça propage le doute sur la légitimité de Mayotte à être française, ce qui est quand même d'une grande violence, parce que nous avons voté. Nous sommes français depuis 1841. On nous a posé la question à de multiples reprises pour savoir si nous souhaitions le rester. On veut le rester. La question qui est posée, c'est en fait, est-ce que la France continue à considérer, ou en tout cas certains décideurs français, qu'on va choisir pour la population son destin sans cette population ? Les Mahoraises et les Mahorais n'ont aucune ambiguïté sur le fait qu'ils sont français. Le problème, il est ici. Le problème, il est aux Comores. Il est que certains continuent à nous regarder en face et nous dire « Est-ce que vous êtes vraiment français ?» C'est quand même une hallucination. Il y a eu des votes, ils ont été entérinés. On est département, c'est-à-dire qu'on est inscrit dans la Constitution pour cette sécurité statutaire. Et en fait, on va continuer à faire de l'archéologie pour aller nous expliquer « Vous avez voté, mais le vote ne convient pas. » On a reposé la question parce qu'en fait, on n'est pas non plus... Nous, on est idée fixe dans le fait de rester français, mais il y a aussi ceux qui considèrent que Mayotte n'est pas française sont aussi dans le mode idée fixe. Donc, ils nous reposent la question. Et on continue à voter dans le même sens, mais on nous sort toujours ça. Et en fait, c'est quelque chose d'assez violent parce que on nous regarde, et moi je le subis même à l'Assemblée nationale, j'ai des collègues qui sont tranquillement en train de dire « mais Mayotte française c'est une erreur, vous ne l'êtes pas vraiment, revenons sur le vote ». Enfin, juste à quel moment est-ce que vous considérez que... À quel moment est-ce que les uns et les autres considèrent que ce chapitre est clos ? À quel moment est-ce que vous considérez qu'une fois que les Françaises et les Français de Mayotte ont voté, cette question est close ? On a revoté.
Vous avez répondu à ma question, qui était, quand vous voyez un titre d'article qui est « Quand la France arracha Mayotte aux Comores », vous avez
rien arraché du tout.
Voilà. Alors, je voudrais vous faire entendre maintenant un reportage qui est disponible sur le site de l'INA. Nous sommes en février 76, quelques jours après que les Mahorais ont voté donc à plus de 99% pour rester français. C'est le journaliste Bruno Mazur qui est l'envoyé spécial de TF1.
Nous sommes le 21 février, il fait 28-30 degrés à l'ombre. Nous nous trouvons dans une petite île à 16 heures d'avion de Paris, une île où il n'y a ni eau courante ou presque, ni électricité et encore moins d'hôpitaux. Une île où 80% de la population ne comprend pas le français et va à la mosquée. Et pourtant, nous sommes en France. La France n'a pas fait grand-chose pour Mayotte, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi donc cet attachement à la métropole, un attachement profond ? Olivier Sty en a été accueilli presque triomphalement ici. C'est une longue histoire qui remonte à 1841, date du rachat de Mayotte par la France à un émir. Depuis 140 ans, les Mahorais se méfient des autres Comoriens, qui ne leur rendent bien d'ailleurs. Une vieille inimitié qui a des motifs historiques mais aussi raciaux. Pour se protéger de ses voisins envahissants, Mayotte a toujours compté sur la France, un réflexe peut-être un peu féminin, car en effet ce sont les femmes qui font la loi à Mayotte. Le mouvement populaire mahorais, parti unique ici, est présidé par une forte femme. Et toutes les cellules aussi, les femmes, dit-on, résistent mieux aux pressions de toutes sortes. Importance des femmes, mais aussi de notables qui contrôlent le commerce et qui en tirent apparemment grand profit. Pratiquement tout, même la nourriture, est importée à des prix défiant parfois toute concurrence. L'avenir, eh bien, les électeurs devront bientôt choisir et peut-être devenir bientôt le 100e département français, le plus beau peut-être, mais certainement le plus pauvre. Dans ce cas, il se coupera définitivement des 3 autres îles de l'archipel, les frères comoriens qui parlent haut et fort de reconquête.
Et alors, dans ce même reportage, le secrétaire d'État au Dom-Tom de l'époque, Olivier Stirne, était interrogé sur place sur l'avenir et le développement de Mayotte.
Quel système de développement allez-vous appliquer à cette île ?
Eh bien, nous allons appliquer un système qui sera celui d'une organisation départementale, c'est-à-dire l'intervention de tous les ministères métropolitains, l'agriculture, l'éducation pour les écoles, l'équipement pour les routes, etc., la santé aussi, avec des hôpitaux, et un système qui, très vite, devrait permettre le rattrapage de l'économie de Mayotte, qui en effet en a besoin, le rattrapage de l'enseignement pour les jeunes, car il est indispensable que tous les jeunes aient un enseignement comme dans les autres départements français. Tout cela sera réalisé dans les temps les plus rapides et un certain nombre de réunions de travail déjà ont permis de voir quelles étaient les priorités.
Voilà, c'était donc il y a presque 50 ans, 49 ans exactement, 1976, quand vous entendez donc le ministre des Dom-Tom de l'époque, Olivier Stirne, qui parle du développement. Qu'est-ce que vous vous dites au fond que jamais la parole donnée n'a été tenue de la France à l'égard de Mayotte ?
Non, je pense que les archives que vous venez de montrer, en fait, elles viennent parfaitement contredire le discours que vous avez répercuté par rapport à ce qui est dit dans une certaine presse. C'est-à-dire que Mayotte, la France a arraché Mayotte. On comprend bien que la France est très mal à l'aise avec le vote de Mayotte, puisqu'on nous repose la question, que vous avez un ministre, puisque en fait les coulisses mais qui sont publiques, c'est que la haute administration considère que Mayotte française est un problème diplomatique. C'est ce qui va consécutivement faire condamner la France à l'Assemblée générale de l'ONU par les pays non alignés et indépendants qui considèrent qu'ils sont emmenés par les Comores pour condamner la France. Et Paris qui consulte et reconsulte pour nous demander est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez rester français. Je rappelle à titre indicatif qu'il y a beaucoup d'autres territoires ultramarins qui adoreraient être autant consultés que nous. Et que en fait, on voit bien au niveau freudien que le sujet, c'est pas la réponse, c'est celui qui pose la question qui a un vrai sujet. Et que, à cet égard, Mayotte est passée, contrairement aux déclarations du ministre, a dû attendre 2012 avant d'accéder au statut de département, et que ça n'a pas été le bon vouloir de Paris, ça a été au contraire un combat acharné de Mayotte, de ses élus, pour être inscrit comme département. C'est ce statut de département qui est, parce qu'il donne accès à certains droits, est en fait perçu à Mayotte comme fondamental pour nous protéger des velléités comoriennes.
C'est-à-dire ce statut de département, il est arrivé tard, hein, en 2011.
En 2011-2012. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était que nous, on a toujours considéré que le statut de département qui inscrit le territoire dans la Constitution protège Mayotte des velléités comoriennes. C'est ça le cœur de la départementalisation. Alors qu'on l'entend dans la bouche du ministre qui dit, bon, évidemment, on va aller vers la départementalisation qui aurait dû logiquement intervenir dans les années 80. Ben non, en fait. Paris nous a passé de collectivité territoriale à territoire
d'outre-mer,
etc. Mais
il parle aussi de développement du système scolaire, du système de santé.
Mais ça, en fait, ça n'a rien à voir avec le statut.
Non, bien
c'est
entendu.
C'est ça ce qui est, fascinant dans les discussions autour de Mayotte, c'est que c'est toujours, est-ce que vous êtes français ? Est-ce que le statut correspond ? Et est-ce que Paris tient ses engagements ? Mayotte, par cette question de la revendication comorienne, se retrouve dans les limbes statutaires et avec une valse hésitation de Paris qui met beaucoup de temps à faire les investissements. Et on est toujours à date, avant même le cyclone de Chido, au fin fond de tous les classements en développement humain, en développement structurel. Donc, par exemple, on n'a qu'un seul hôpital pour 500 000 d'habitants. Ouais. On a 4 routes nationales pour 375 km². On est dans l'inégalité totale au niveau des prestations sociales, alors qu'on est département. Ouais. C'est la moitié.
Elles sont moindres alors que le coût de la vie est plus
élevé.
C'est
la moitié des prestations sociales nationales qui sont appliquées à Mayotte. Et quand elles sont appliquées, c'est à la moitié du niveau national. Pour un coût de la vie qui est beaucoup plus important.
je crois que vous disiez
167% pour le même panier alimentaire.
On va marquer une respiration musicale, Estelle Youssoufa. C'est vous qui avez choisi ce que nous allons écouter. C'est un choix particulier. On va l'entendre et puis vous nous expliquerez après de quoi il s'agit.
Allahumma wujud mawjudu rabbi abadiyyi azaliyyi
namshira shikuna
bila Allahumma wujud mawjudu rabbi abadiyyi azaliyyi
Raasiya
la yushbihuni malaika la yushbihuni insana huwa Allah huwa al-ilahu rabbul arshi
washeleyo dahala huwa
Allahumma
Dufufu bila balu wala fahari bana ya
ukina.
Karati kubazi
asali.
Fayari bazi yo anayina. Fayari bazi yo.
Ça ressemble à des chants religieux, c'est bien de ça qu'il s'agit.
Oui.
Dans le portrait de vous fait par le Nouvel Obs que j'évoquais un peu plus tôt, vous disiez à Mayotte, ce sont les femmes qui sont les chefs de famille, qui font la politique, qui vont dans les meetings, qui sont propriétaires du toit familial. Nos traditions sont bien plus égalitaires qu'en métropole. Mayotte est très singulière, que ce soit sur le féminisme ou l'islam. Là, en l'occurrence, ces chants sont une illustration de ce particularisme de Mayotte.
Oui, Mayotte est une société matriarcale, donc les femmes sont chefs de famille. La tradition impose au papa de construire pour chacune de ses filles son toit. C'est-à-dire que lorsqu'elle se marie, elle reste chez elle et c'est son mari qui s'installe chez elle. Et lors du divorce, qui part et elle garde ses enfants. La tradition veut aussi que ce soit la femme qui gère les cordons de la bourse. Et donc effectivement dans une société qui est pourtant largement très croyante où le religieux imprègne le quotidien qui est l'islam, c'est pas du tout mais alors du tout la vision qu'on peut avoir en hexagone d'une musulmane à protéger ou qui serait toujours perpétuellement victime etc. À Mayotte qui est une société musulmane très croyante, très pratiquante, pas du tout. Les femmes, certaines sont voilées, mais pas toutes, ne sont pas du tout des citoyennes de seconde zone, loin de là. Ce sont elles, par exemple, qui constituent la grande majorité du public lors d'un meeting politique. Ce sont elles qui donnent le dimanche matin les consignes de vote. Ce sont elles, les chefs de famille. Et là, vous l'avez entendu, ça s'appelle le débat. C'est une musique traditionnelle qui est une prière chantée par des femmes, des chorales de femmes uniquement.
C'est assez rare, ça.
C'est rarissime. Donc pour certains puristes, c'est même sacrilège. Mais en fait, ça répond très bien au particularisme que crée l'insularité. Ouais. Puisqu'en fait, donc on est comme tous les territoires insulaires, on développe nos propres traditions. Et c'est le débat est. C'est beau à écouter, mais c'est surtout très très beau à voir parce que c'est danser de manière très très lente
et
avec
des
gestes
très
de
colorés.
Il y a en tenue traditionnelle, il n'y a pas de tenue particulière, mais c'est surtout que les gestes de la main et ça se danse avec les épaules de manière très très lente. Moi j'en ai des souvenirs enfants, les tentes étaient brodées. C'est dressé pour des circonstances particulières, pour les circoncisions, des cérémonies religieuses. Ce sont des traditions. Mayotte est une île musicale. Quasiment tout le monde sait chanter. Moi, je suis vraiment une anomalie. Je ne suis pas du tout capable de chanter. Mais à Mayotte, tout le monde est capable de chanter a cappella. Et on l'apprend dès qu'on est enfant. Et voilà, je trouvais que c'était important de... Vous m'aviez demandé de choisir de la musique. J'ai choisi celle-là parce qu'elle elle dit bien nos traditions et la beauté. Donc, c'est un cœur qui se répond. Et ce sont des femmes avec peu d'instruments, mais c'est le côté aussi collectif qui est très très fort, puisque à Mayotte, on est tout le temps ensemble.
Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golchani. On va en venir, Estelle Youssoufa, à la situation actuelle à Mayotte. Comment vous la qualifieriez, cette situation d'aujourd'hui, depuis le passage du cyclone Chido ?
Difficile. À Mayotte, on se plaint pas. Donc, quand les gens, quand je suis sur le terrain, je demande aux gens comment ça va. On me dit ça va, mais ça va pas. On me dit ça va, mais ça va pas. Ça, on ne sait pas répondre, ça va pas. Donc non, ça va pas. C'est douloureux. On voit l'immense chantier qu'on a face à nous pour la reconstruction. La plupart des foyers sont toujours pas alimentés en électricité. On a toujours les coupures d'eau. Le paysage de dévastation est partout. On a des grosses difficultés pour s'approvisionner au niveau alimentaire. Plus d'un mois après le cyclone, là, les gens commencent à être extrêmement fatigués. Il y a la difficulté de la rentrée scolaire qui préoccupe tout le monde parce que on comprend que pour scolariser les enfants, ça va être très difficile puisque les écoles sont détruites, que les mettre dans des tentes, c'est pas une solution. Donc les familles sont en train de s'organiser pour que les enfants partent, parce qu'il y a un déchirement pour tout le monde. Et puis la reconstruction est lente à démarrer, donc c'est dur. Et très nombreux à ne toujours pas avoir de toit.
Est-ce que le bilan humain de la catastrophe est toujours impossible à établir clairement ?
Oui, je pense que, à défaut de parler des décès, parce que le chiffre de 39 est complètement invraisemblable, il faut au moins parler des disparus. Donc... il y a quand même des milliers de personnes qui manquent à l'appel. L'une des perspectives que pensait avoir le gouvernement, c'était la rentrée scolaire, pour compter le nombre d'enfants qui ne reviennent pas à l'école. Et en fait, ça s'annonce très difficile, puisque là, même la rentrée a été à nouveau reportée. Donc, je pense que ce bilan ne sera jamais fait, même s'il est nécessaire, parce qu'il faut tirer quand même les conséquences de ce qui s'est passé lors du cyclone.
Quelle est la situation en ce qui concerne l'eau, l'électricité et les ressources alimentaires ?
L'électricité de Mayotte travaille prioritairement sur les bâtiments publics, les foyers où il y a des personnes qui sont malades, etc. Mais nous, on n'a pas de chiffres autres que ce qu'elle publie et qui est répercuté par le gouvernement, à savoir 80% de remise en service, mais en fait c'est 80% des demandes prioritaires, donc c'est celle des services de l'État. Ce n'est pas du tout les foyers. Les foyers sont pas prioritaires pour avoir de l'électricité. Donc en fait, nous on a rien d'autre que les données empiriques, c'est-à-dire que vous êtes la nuit à Mayotte, tout est dans le noir.
Ouais.
Donc en fait, pour les foyers, c'est quand même toujours très très compliqué. Puis moi j'ai plein de remontées de mes concitoyens qui me disent on n'a toujours pas l'électricité. Pour l'eau, ben, on a toujours des coupures 2 jours sur 3. Donc de l'eau au robinet 1 jour sur 3 de manière totalement erratique.
Oui, parce que le problème de l'eau ne date pas du
cyclone. Voilà, il était antérieur au cyclone, mais là, en fait, avec le cyclone et les destructions, les canalisations et le système même de remise de l'eau a été détruit. Donc c'est compliqué. Et puis pour les denrées alimentaires, les prix ont commencé à exploser et il y a souvent des ruptures de stock parce que les approvisionnements, les chaînes d'approvisionnement ont été très perturbées. Donc non, au quotidien, c'est survivor, c'est compliqué.
Alors, le projet de loi d'urgence pour Mayotte a été adopté dans la nuit de mardi à mercredi en commission. Il doit être examiné en séance à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Vous en êtes la rapporteure. Pour autant, vous trouvez que ce texte est loin d'être satisfaisant. Vous avez dit qu'il était sans réelle ambition, qu'il avait été élaboré sans consultation avec les élus locaux ni parlementaires, et qu'il restait largement muet sur des sujets essentiels tels que l'immigration. Est-ce que, malgré tout, vous pensez que ce texte va permettre d'avancer vers le mieux raisonnablement?
En fait, c'est un texte qui est juste un point de départ, parce qu'on a besoin techniquement, pour le gouvernement, d'avoir certains ajustements au niveau des normes pour pouvoir entamer les chantiers de la reconstruction. Mais par exemple, il n'y a pas de budget. Alors après, ce n'est pas uniquement dépendant de la crise de Mayotte ou du gouvernement. C'est parce qu'en fait, à cause de la censure, il n'y a pas de budget pour l'État tout court. Donc en fait, c'est délicat pour le gouvernement. Il n'est pas en capacité légalement d'aller débloquer du crédit pour Mayotte. Donc c'est vrai que ça complique la situation.
Ouais, la situation politique complique aussi elle-même.
Exactement. Donc c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation. Par contre, je pense qu'il y avait des mesures qui étaient à coup nul, qui aurait pu être prise, et que le gouvernement a pris une approche qui fait douter de sa sincérité, parce que ce qui est présenté au Parlement a été rédigé par la haute administration au lendemain du cyclone, sans que le gouvernement ait été désigné.
Donc il n'y a pas de tournure. À coup nul vous parlez qui aurait pu être prise?
La demande unanime de la classe politique à Mayotte, c'est de dire qu'il faut absolument mettre un moratoire sur la délivrance des visas et l'étude des demandes de séjour à Mayotte. Ouais. Que je rappelle que c'est la moitié de la population qui est étrangère à Mayotte. Ouais. Pour dire, en fait, il n'est pas possible d'obtenir des nouveaux droits pour les étrangers à Mayotte actuellement. Parce qu'on ne peut pas étudier, la préfecture est en partie détruite. Et surtout, la protection, la surveillance de nos frontières est complètement HS, parce que y a plus, les bateaux ont été coulés, les radars ont été détruits. Et qu'en fait, on voit continuer à arriver des migrants par bateau, quotidiennement, sur une île où il n'y a plus rien.
Oui, c'est donc, ça n'a pas diminué.
Ça n'a pas diminué le flux. Donc en fait, le seul motif, c'est avoir des papiers. Donc si le gouvernement... On ne peut pas dire que c'est la prospérité, parce qu'à Mayotte, il n'y a plus rien. Donc tout le discours de dire « oui, mais les migrants, les pauvres petits, ils viennent parce qu'ils veulent chercher la richesse à Mayotte », bon, bah là, expliquez-moi, parce qu'il n'y a plus rien. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'accéder à des papiers pour potentiellement devenir français ou arriver dans l'Hexagone. Donc nous, on a besoin que le gouvernement, et on l'a demandé instamment, le gouvernement envoie un signal en disant « la préfecture est fermée à Mayotte pour les étrangers, ce n'est pas la peine de venir ». Ça, on attend toujours ce signal. Il y a aussi des mesures qui étaient à coup nul pour dire qu'on empêche absolument la reconstruction des bidonvilles qui sont en train de repousser comme des champignons.
Ouais. J'en parlais tout à l'heure de votre ton qui peut être très ferme tout en étant posé. Et c'était à propos du droit du sol, il y a quelques jours, une sorte de colère froide à l'encontre du député du Nouveau Front Populaire, Aurélien Taché, qui voit, lui, dans la limitation du droit du sol à Mayotte, une rupture d'égalité sur le territoire national. Pour vous, il y a des principes ou des règles qui doivent s'effacer devant la réalité de Mayotte ?
Non. C'est que l'indignation par rapport aux inégalités à Mayotte, elle est totalement variable. Je rappelle que Mayotte est française. Nous, Français de Mayotte, on ne peut pas chanter la Marseillaise, on ne peut pas avoir le drapeau pour nos athlètes parce que les Comores s'y opposent aux Jeux de l'océan Indien. On ne fait pas partie de la commission de l'océan Indien parce que les Comores s'y opposent. Donc une rupture d'égalité totale, personne ne s'en indigne. Sur la question de la libre circulation, c'est-à-dire savoir si quand vous êtes régularisé à Mayotte, vous êtes régularisé pour l'ensemble de l'espace national. Ce n'est pas le cas, personne ne s'en indigne. Sur le fait qu'on n'est pas, ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, égaux par rapport aux prestations et aux droits sociaux, personne ne s'en indigne. Sur le fait que nous n'avons pas la liberté de circuler ou le droit de vivre en sécurité, qui est pourtant un droit constitutionnel, parce que la violence à Mayotte est extrême. Là, on n'entend personne. Donc, nous dire que la République est une et indivisible alors qu'elle ne l'est pas, Mayotte est totalement à part de la République, et que là, subitement, les uns et les autres se raccrochent à leurs principes, alors que nous, on a été très clairs, Mayotte, on a été très clairs, on nous a dit... Non, mais vous comprenez, vous n'êtes pas totalement prêt pour la départementalisation. Si c'est ça, ben, il n'y a plus la polygamie. Fin de la polygamie à Mayotte. On nous a dit, non mais vous savez, à la volonté de la population, ça a été voté, etc. On a dit oui, fin de la polygamie. On nous trouve toujours des exceptions pour justifier le moins 10 ans à Mayotte. Et donc là, on est en train de nous dire, la fin du droit du sol, qui est quand même le motif principal de la migration à Mayotte, c'est accéder à la nationalité. C'est 80% des parturientes à Mayotte sont étrangères. Elles arrivent soit enceintes, soit il y a une inflation de la fraude au papier administratif. Et donc, je suis face à des interlocuteurs qui sont toujours en train de trouver plein de bonnes raisons pour maintenir un vernis de droit, qui ne connaissent pas les dossiers à Mayotte, qui sont toujours en train de les découvrir, et qui après nous regardent en disant « Ah non, mais vous comprenez les grands principes ?» Ah ben non, les grands principes, tout le monde s'assoit dessus à Mayotte, et par contre, on va les utiliser contre nous quand on demande un système dérogatoire
pour aujourd'hui, pour avoir qu'est-ce ça. Qu'il faut faire ? Il faut suspendre au moins totalement, pas seulement l'aménager, le limiter, il faut suspendre le droit du sol.
À Mayotte, il faut y mettre fin. Mayotte, il faut y mettre fin. C'est pas l'idée de l'extrême droite. Hein. Ouais. C'est proposé.
Ça, c'est une critique qui pardon, vous est mais régulièrement c'est la proposition... adressée. Vous faites le jeu du RN.
C'est la proposition du président de la République. Mais non, mais en fait,
non, mais c'est juste à un quand moment. Quand on vous dit ça, ça vous énerve ou ça vous fait ni chaud ni froid ?
Alors, je suis pas quand même complètement idiote. C'est franchement pas un compliment. Ouais. Si j'avais l'intention ou si je pensais que j'étais d'extrême droite, je serais membre du RN, ce qui n'est pas le cas. Je n'épouse pas leurs idées. Je vais pas, je ne comprends pas pourquoi les uns et les autres, au lieu d'avoir des réponses idéologiques ou factuelles ou concrètes sur ce qu'il se passe à Mayotte, vont aller essayer de coller des étiquettes pour comme ça essayer d'utiliser le grand épouvantail au lieu de s'adresser au fond du sujet. Le fond du sujet à Mayotte, c'est qu'on a un voisin, les Comores, qui revendique territorialement Mayotte sur la scène internationale, qui instrumentalise leur population pour prendre le contrôle de l'île, puisque les Comores, et là le président Azali vient de le répéter, les Comoriens estiment qu'ils ne sont pas en migration à Mayotte, mais qu'ils sont chez eux. Et c'est aujourd'hui une large proportion de la population étrangère. Et on a maintenant une arrivée depuis plusieurs années de migrants qui arrivent des Grands Lacs ou de Somalie et qui, eux, viennent pour demander l'asile. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas dans la migration comorienne, ils sont dans la demande d'asile. Et eux, ça leur ouvre des droits auxquels les Mahorais n'ont même pas droit. Des aides alimentaires, des aides au logement, auxquelles les Mahorais, et je parle là des inégalités structurelles qu'on a évoquées un peu plus tôt, les Mahorais, parce que là, on est dans l'inégalité structurelle et qui n'a rien à voir avec les combats du NFP, etc. On ne les entend pas sur la question. Et là, là-dessus, ils sont en train d'arriver à Mayotte. Et ça, c'est une instrumentalisation des flux migratoires avec une déstabilisation complète de Mayotte qui est à l'œuvre depuis plusieurs années. La seule réponse, c'est effectivement qu'on doit mettre fin au droit du sol. Parce qu'on voit bien que quand il y a eu des aménagements du droit du sol, c'est le cas depuis plusieurs années avec la loi Collomb-Tanny, en fait, ça a juste augmenté la fraude documentaire. Ça n'a pas limité les naissances et on se retrouve maintenant à avoir un double droit du sol où si les deux parents sont étrangers et qu'ils sont à Mayotte depuis plusieurs années, ils peuvent quand même donner la nationalité à leur enfant.
On arrive vraiment au terme de l'émission. Réponse très brève, s'il vous plaît. Il y a trois ministres qui ont signé une tribune dans le Figaro, ministre de l'Intérieur, ministre des Outre-mer et ministre des Armées, qui disent « Sans fermeté migratoire, nous reconstruirons Mayotte sur du sable ». Est-ce que vous dites, vous les prenez au sérieux quand ils disent ça ? Vous pensez qu'il y a une volonté d'être plus déterminé ?
La volonté, moi j'ai besoin d'actes.
Un dernier mot, vous disiez que la politique n'était pas du tout une vocation. Si, par un coup de baguette magique, Mayotte allait parfaitement bien, si Mayotte était un département prospère et serein, qu'est-ce que vous feriez ?
Dans ma vie à moi, tout seul ? Ah, moi, je serais loin, je serais en train de faire autre chose.
Oui, c'est ce que je vous demandais. Mais vous ne savez pas quelle chose.
Ah non, je ferais probablement de la couture ou d'aller faire de la décoration, de la cuisine, de faire autre chose. Ouais. Loin de tout.
Merci Estelle Youssoufa d'être passée à l'atelier politique. Cette émission a été réalisée par Mathias Golchani. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.